I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Monsieur qui?
Monsieur Pierre-Yves.
Bédard!
Danse avec son masque.
Yes, et donc, salut chef, comment ça va? Il est toujours le personnage de Michael Myers jusqu'au bout.
Ah oui.
Et donc, ben oui, explosionnel pour les gens sur le web. Mais là, je vais aller me changer parce qu'il fait chaud en tabarnak.
Oui, on te laisse enlever ça deux secondes.
Écoute, et là, je te vois encore une fois avec ta superbe calotte des Bulls qui ont gagné le premier match. Je suis très content.
Oh yeah, on est parti.
Yes! Et là, ben c'est ça. Cette semaine, tu es allé. En fait, on est allé avec une chronique Halloween et ben, qui dit Halloween dit spécial marathon film d'horreur.
Ouais.
Et là, ben, là-dedans, il y a des classiques. Et ben, tu fais par ben, ceux qui ont vu ton masque pour les gens qui n'étaient pas sur le Facebook Live. Tu es un fan aussi de films d'horreur. Fait que tu es allé nous traficoter un petit top 3. Là.
Je suis un grand fan de films d'horreur. Je suis un fan surtout de slasher, donc les films avec des tueurs dedans.
Ouais.
Et la chronique cette semaine, c'est un peu une chronique hors série. Fait que, tu sais, j'ai apporté quand même trois slashers avec trois liens musicaux, mais ce n'est pas des éphémérides. Par contre, c'est des slashers qui ont marqué mon histoire.
Oh, excellent! Ah. Écoute, on y va avec ton premier choix.
On va commencer à parler, oui, justement, puis ouais, Myers-Bédard, on va parler du film Halloween et le tueur, le personnage principal, en fait, Michael Myers. La franchise Halloween, c'est une franchise qui contient quand même 13 films et le premier film a lieu en 1978. Et là, qui dit film d'horreur dit ligne du temps complexe. Et Halloween a probablement la ligne du temps la plus complexe des films de slasher que j'ai sorti ce soir. D'ailleurs, j'ai sorti une photo pour ça, un diagramme. Et en fait, il y a trois lignes du temps pour Halloween. Il y a la série qui fait Halloween. Ah, oh, mon Dieu, que ça sort mal. Et là, là.
Pas grave.
En tout cas, bref, il y a Halloween 1, 2, 4, 5.
Je vois la couleur de CJMD, c'est parfait.
Donc, c'est ça. Il y a les Halloween originales 1, 2, 4, 5 et 6. Il y a une autre série qui part du film 1, 2 et fait le 20 ans plus tard et la résurrection de Michael Myers.
Oui.
Et là, il y a la dernière série de films qui part du 1 et qui fait Halloween, Halloween Kills et Halloween Ends. Et là, Halloween Ends est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, c'est vraiment une toute nouvelle trilogie qui est basée sur le premier film.
OK.
Mais on le voit bien, là, avec les typicaux.
Ben, on le voit, on ne voit juste pas les noms des films, mais c'est pas grave. En plus de ça, il y a une quatrième storyline qui part du Halloween 1.
OK.
Et il y a Rob Zombie qui a fait un remake de Halloween 1 et Halloween 2 à sa sauce à lui.
Ouais. Okay. Je déteste les remakes.
Ben, en fait, les remakes sont quand même intéressants Par contre, ça expose un Michael Myers beaucoup plus humain. On le voit, il est là en tant qu'enfant, en tant que patient psychiatrique. Une des affaires qu'on n'aime pas, c'est qu'il parle. C'est un personnage en tant que tel.
Ouais, c'est ça, il n'est pas supposé parler. Il est juste supposé
tuer. C'est ça qui fait peur, en plus.
C'est ça.
Ben, c'est ça qui tue un peu la magie. Et il y a un film que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Halloween 3, où, dans le temps, John Carpenter a dit « Je vais faire Halloween 1, Halloween 2 » et le prochain film sera un film juste d'Halloween parce que ça va traiter de l'ambiance de tout ça. Donc, Halloween 3, Michael Myers n'était pas dedans. Et le monde ont complètement flippé des tables.
Ben écoute, il y a de quoi, là. Ben, c'est le personnage principal, tu l'enlèves.
C'est pour ça qu'on la regarde.
C'est là que tu pitches un gars de la troisième corde dans la table de l'annonceur mexicain, là.
Ben exactement, mais ça demeure quand même un excellent film d'horreur qui est basé sur une compagnie qui fabriquait des masques. Et là, ils mettaient une puce dans le masque pour faire exploser la tête des enfants. En tout cas, ça vaut la peine.
Oh, ben, je sais les gens qui ont compris mon gag de WWF. On continue. On peut-tu sentir les hosties de fatigants qui n'arrêtent pas de marquer des commentaires?
Ah oui, oui, j'y arrivais. Je t'occupais à montrer des photos, moi.
Oui, oui, c'est vrai. OK, oui, on fait sauter des têtes d'enfants, oui.
On fait sauter des commentaires. Ouais.
Hein. Excusez, c'est restant des mots-là. Alors, quand on parle de l'histoire de Michael Myers, le 31 octobre 1963, ça, on voit ça dans le premier film. Mm-hmm. Il est déguisé en clown, il prend un couteau de cuisine, il tue sa sœur. Parce qu'elle est en train d'avoir une relation extra-conjugale avec un petit gars.
C'est ça.
Michael Myers est avec interné.
Extra-conjugal, tu veux dire pas avec lui? Hein?
Pas avec lui, avec son chum.
OK.
Et ouais, ce qu'on va voir dans la vie de Michael Myers, c'est qu'il va tuer, des gens, on en reparlera un peu plus tard, mais il tue souvent des filles en train de faire l'acte. Un peu des...
Ouais.
C'est pas des charrues, mais tu sais, en tout cas, des filles qui sont plus faciles.
Il y a un certain pattern de tueur en série, là, qu'il voit quelque chose, puis ça, c'est là qu'il débloque.
Ouais.
Ça le trigger, c'est ça.
Ouais.
Et là, dans le premier film, il se fait interner. Il sort de l'auberge psychiatrique après 15 ans. Il retourne dans son village natal. Et là, qu'est-ce qu'il voit pas quand il retourne à sa propre maison? Laurie Strode, qui est jouée par Jamie Lee Curtis.
Oh oui!
Et là, il commence à la pourchasser.
Il y a longtemps, c'est un fait totalement inutile, là, mais Jamie Lee Curtis a longtemps été considérée comme une des actrices qui a les plus belles cuisses d'Hollywood.
Oui, ben,
notamment
belle
à cause
femme
de
en général.
Oui, mais en tout cas, mais bref, ça n'a pas rapport avec le lien, mais ça m'a fait penser à ça. On continue.
Ben quand même, dans le temps, c'était une très belle jeune femme.
Ah oui,
elle
fitait
dans le concept de jeune écolière du secondaire. Et là, Michael fait une fixation sur elle. Mm-hmm. Il y a certaines théories, dont dans Halloween 2, où on découvre que Laurie, c'est la sœur de Michael. Et c'est pour ça qu'il y a certains films qui vont complètement ignorer cette ligne du temps-là, dont la dernière trilogie.
OK.
Où Laurie ne fait que se défendre contre Michael. Et là, il y a des affaires de genre, il pourchasse sa sœur dans les 3, 4, 5, il pourchasse sa sœur. Sa sœur a eu un enfant qui est sa nièce. Et un fait caractéristique de Michael, c'est qu'il ne touche jamais à des enfants.
OK.
Ouais.
Donc, quand il voit des enfants, il est un peu attendri. Une autre théorie, c'est qu'il est encore enfant en lui-même. Et là, à la caméra, au Facebook Live, on voit Michael Myers dans Michael Myers dans le Halloween 4 avec le plus laid masque de l'histoire de l'humanité.
Ah, sérieux, il est horrible. Oui.
Et ce masque-là est caractéristique parce qu'il l'a comme pris dans une quincaillerie et se l'est mis sur la tête. Parce qu'il se trouvait pas beau. Parce que Michael, son nom original, c'est The Shape. Donc, c'est vraiment l'incarnation du démon.
OK. J'ai une question avant que tu continues. Là. Tu sais, tu dis, il y a comme trois lignes du temps. Là, tu parlais de Rob Zombie. Les trois lignes du temps, c'est-tu trois réalisateurs différents? C'est-tu plusieurs réalisateurs qui se sont relayés la franchise?
Pour Halloween 1 et 2, c'était John Carpenter qui faisait la job.
Oui.
Et par après, ça s'est comme poursuivi pour différents réalisateurs. Oui, sauf que dans la dernière trilogie, John Carpenter est comme revenu mettre son grain de sel là-dedans. Donc, c'est comme plus accepté.
OK, OK.
Et pour terminer sur Michael, j'ai sorti quelques fun facts sur le gars. Le titre initial d'Halloween, c'était « The Babysitter Killer ».
Hey boy.
Donc,
moins vendeur.
Ça met un peu le ton, mais oui, c'est sûr que Halloween demeurera toujours Halloween, qui est un des films d'horreur les plus connus et qui a fait le plus d'argent. Le film original, le scénario a pris 2 semaines à écrire.
Okay.
Les gars étaient tellement dedans, ils ont écrit ça en 2 semaines et ça a pris seulement 22 jours de tournage pour un budget de 300 000 $.
C'est quand même un tour de force. Mais ouais. 300 000 $ en 78, c'est quoi? C'est 1 million à peu près en argent d'aujourd'hui?
À peu près 1 million, mais quand on compare au film plus récent, mettons Décadence, qui a eu un aussi petit budget, c'est quand même une croissance exponentielle dans tout l'univers de ce film-là.
Oui, oui, je comprends.
Et dernier petit fait intéressant avant de passer au lien métal, la mère de Jamie Lee Curtis.
Oui.
En fait, Jamie Lee Curtis n'était pas pressenti pour jouer ce rôle-là. Par contre, sa mère a joué dans le film original Psycho d'Alfred Hitchcock.
Oui, c'est vrai.
Ah ouais.
Oui.
C'est elle, le personnage principal.
Oui, c'est vrai.
Ah ouais, ça, je ne savais pas.
Fait qu'ils ont comme fait, sa mère était bonne pour crier. Elle aussi, elle devrait être pas pire pour crier.
C'est donc bien ridicule comme lien alambiqué, ça. Ta mère crie bien, tu vas crier bien, toi aussi.
Exactement.
Écoute, moi là-dessus, je veux dire, c'est un argument aussi fallacieux, je ramasse le bureau de comptable à mon père. Là.
C'est Janet Leigh.
OK. Hey, je veux quand même mentionner quelque chose. Tu sais, le masque de Michael Myers, il ressemble un peu à... c'est qui là, l'acteur qui fait des films une fois sur deux bons puis une fois sur deux bons? J'allais dire Johnny Cage. C'est dans Mortal Kombat.
Nicolas Cage.
Oui. En fait, le masque, quand tu m'as envoyé une photo d'image, j'ai fait, hey, on dirait genre Nicolas Cage en version, tu sais, Halloween.
Et ça, je dis ça pas parce que c'est sous mes cartons, mais parce que je suis un grand fan. Le masque original d'Halloween est basé sur William Shatner.
Ah ouais, OK.
C'est une empreinte de son visage qu'ils ont utilisé pour faire ce film-là, ouais.
OK, le Capitaine Kirk de Star Trek. OK. Avant les...
Oui.
Quand même.
Mais tu sais, là, tu viens de pogner un femme, par exemple, de Star Trek, ici, là.
Oui, moi.
C'est ça, toi? Je t'ai pas être toi, il a l'air surpris.
Ouais, fuck Star Wars, j'en ai rien à foutre. Hey. Star Trek, c'est plus réaliste.
Moi, j'y compare juste pas. Tu vois? Je suis heureuse.
Ah. Mais bon, tu vois, je suis heureuse, t'as vu? OK. Est-ce que...
Oh, oui, c'est vrai. On s'épivarde.
C'est vrai, faut aller à ton extrait.
Oui, j'ai des extraits parce qu'en 2021, un groupe qu'on connaît et qu'on adore beaucoup qui s'appelle Ulver, en tout cas au Lac-Saint-Jean, c'est Ulver. Ils ont sorti un album qui s'appelle Scary Muzak. Scary Muzak, c'est composé de 5 covers de chansons de John Carpenter et 7 chansons originales qui ont inspiré des films d'horreur. Donc, Ulver a sorti un album et on va aller entendre l'extrait Aline Hall, qui est clairement une pâle copie du thème du film Halloween.
Et donc, ben oui, effectivement, pas le copie, mais quand même, on reconnaît le clin d'œil.
Ah oui.
Oui, c'est très, très, très bien composé. C'est un album que j'écoute régulièrement.
Good. Et là, ben, pour ton deuxième extrait, sortez votre petit tablier de cuirette et votre chainsaw. On s'en va au deuxième choix de PY.
Alors, je vous parle bien évidemment de Massacre à la tronçonneuse.
Oui.
le nom original de Texas Chainsaw Massacre. On va parler de Leatherface. Leatherface, qui est un personnage en tant que tel, mais qui est aussi accompagné de sa famille, et on en reparlera plus tard.
Très, très sud des États-Unis.
Ah hein. Oui, fait chaud.
Très Texas.
Consanguin, très, très consanguin comme famille.
Oh mon Dieu, oui, à 1000%. Donc, Le Massacre à la tronçonneuse, c'est une série qui est composée de 9 films, dont le premier est en 1974, donc un peu avant Halloween.
Mm-hmm.
Encore une fois, c'est une série qui est un peu mêlante pour les gens qui commencent à l'écouter. Il y a plusieurs lignes du temps. Là. Par contre, ça se suit quand même assez. Donc, il y a le 1, le 2, le 3, le Next Generation et le dernier qui est sorti sur Netflix récemment qui se passe 50 ans plus tard.
Ouais. Oh, OK. Sur Netflix, ça, je ne savais pas.
Récemment, oui. On parle de quand à peu près?
2022.
Donc, okay, c'est le temps.
Quelque chose de cette année.
De cette année, oui. Peut-être 2021, mais en tout cas, les dernières années.
Okay. J'en ai vu un récemment là, qui était vraiment avec toute sa famille. Des gens étaient pris dans la maison. Puis,
Le dernier, c'est quoi le titre exact?
Je pense que c'est juste Massacre à la scie. Mais tu sais, c'est très 2022, les gens vont retourner.
Mon application Netflix me dit que, by the way, Halloween aussi est là sur Netflix. Celui de 2007. Mais là, toi, celui que tu parles, là, Massacre à la scie, c'est 2022 qui est sorti.
2022, c'est ça. Ouais. Fait que c'est très, très contemporain. Les gens retournent dans le village original et là, Leatherface est encore là. Il y a des gens un peu louches, mais tu sais, c'est très influenceur. Tu sais, ils vont visiter le village, ils sont tous là avec le téléphone dans un autobus avec du gros dubstep, tu sais. Mais lui, il débarque là-dedans puis il le sac toute la voie.
Salut tout le monde, merci, bonsoir, fuck le dubstep. On aime c'est ça.
Il fait un saccage.
C'est très, quand même très gore, mais c'est là qu'on voit, je trouve, une des meilleures exploitations du fait que Leatherface, on ne l'appelle pas Leatherface pour rien, c'est parce qu'il se met dans le visage de la peau des gens.
Mm-hmm.
Un peu comme la photo va venir le prouver. C'est exactement tiré du dernier film. Donc,
c'est inspiré de Ed Gein, le tueur en série. Là.
Tu vois tout le temps les liens.
Au vrai, bon, OK.
Ouais, mais le pire, c'est que j'en ai même pas parlé. Je me suis dit, c'est sûr que P.Y. va en parler. Ouais. Fait que...
Laisse-moi deviner, tu nous as sorti Dead Skin Mask The Slayer.
Non, même pas.
Non, il est bien plus fin que ça. Là,
tu vois, j'ai pas écouté les extraits parce que, tu sais, malgré le cover des Backstreet Boys, je te fais confiance. Fait que je te laisse aller.
Ben, c'est sûr. Alors, l'arme de prédilection de Leatherface, évidemment, c'est, comme ils disent dans la petite vie, la chienne. Ça.
Oui.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Par contre, on voit qu'il tue à plusieurs d'autres, il y a plusieurs d'autres façons de tuer. Et comme on disait, il a vraiment son masque en peau d'humain. C'est un personnage qui est considéré comme un enfant dans son cœur. Donc, ils disent même un gros bébé qui a peur du monde extérieur et qui subit vraiment le contrôle de ses frères. Donc là, c'est là que l'importance de la famille arrive.
Mm-hmm.
Dans les premiers films, il y a vraiment sa pièce à lui, les fameuses scènes où on voit qu'il ferme la pièce avec les grandes portes d'aluminium.
De locker ou de garage.
Qui est comme tout le temps dans un sous-sol, c'est ça. Et là où ce que ça devient le plus fucké, ce qui est intéressant dans la mythologie du massacre à la scie, c'est qu'il y a justement ses deux frères, un qui s'appelle Drayton Sawyer, surnommé le cuisinier de Cook, et Nubbins Sawyer, qui est le pousseux, qu'on voit vraiment dans le premier film, où ouais. les jeunes qui vont faire un voyage en barque dans le van, et il est complètement pas là, là. Et il y a aussi le grand-père, la grand-mère qui sont dans la maison, mais eux, on les voit un petit peu moins. Cette famille-là est considérée comme des cannibales. Donc, ils kidnappent les gens,
ouais.
les torturent, les tuent et les mangent.
Okay.
Et là où ça devient un peu plus crunchy, et on quitte Leatherface un peu, c'est que le frère qui s'appelle The Cook est propriétaire d'une station d'essence. Et lui, il va vendre de la viande et il va même faire un chili avec cette viande-là et participer à des concours de chili dans l'État. Et les mondes mangent ça et sont comme, c'est le meilleur chili que j'ai jamais mangé, du coup.
Ça me rappelle la mafia italienne de Montréal avant les Jeux olympiques. Il y avait eu un scandale qu'il y avait de la viande avariée d'humains dans des boucheries parce que, tu sais, tout bon mafieux connaît un boucher. Là.
Oh oui.
Puis, okay. ben, ça avait sorti, ça. Ça avait passé notamment dans les journaux de l'époque, là.
La viande avariée d'humain.
Oui, ils vendaient de l'humain sous forme de saucisse, là. Tu sais, c'était avant juste avant les Jeux olympiques. Ça avait fait un tollé des médias.
Hein?
Oui.
Ah.
Ça s'est pas passé à l'autre bout de la planète, là. Ça s'est passé ici.
Montréal.
Salut, les gens de CIBL. Oui.
Et pour les plus aguerris qui me suivent depuis longtemps et qui connaissent un peu Matraque et Sarah, quelle famille d'une série de mafias italiennes avait une boucherie?
Ah!
On parle-tu de Scarfo ici?
La famille Scarfo de Omerta, voilà.
Omerta!
Et là, ah ouais. ben, pour les gens qui ne savent pas, là, le plus grand fan d'Omerta que je connais, c'est P.Y.
Oui.
Après, c'est moi, mais je ne trouve plus mes DVD.
Et puis, je les ai retournés.
Sérieux? Hey. Non, oui, oh, oui, j'en doute pas. Mais je les trouve plus. J'ai perdu mes DVD d'Omerta.
Mais je
les ai
peut-être apportés ici, puis tu les as oubliés ici ou au bar. Genre, je te les ai peut-être ramenés à quelque part. Puis...
Je ne sais pas, mais visiblement, il va falloir que j'en rachète parce que c'est une excellente série ben québécoise. Oui. Et oui, la famille Scarpo qui avait une bonne boucherie. Tout bon mafieux a une boucherie.
Et comme on en parlait un peu tantôt, Leatherface est inspiré par Ed Gein. Ed Gein est un gars qui a été condamné pour seulement 2 meurtres. Par contre, il déterrait des corps. Et ce gars-là en faisait des meubles et des sculptures, en plus du masque de peau. Donc, ils ont retrouvé chez lui, ils ont fait la fouille. Hein?
Fameuse langue.
Il a fait aussi une robe à partir de la peau.
Oui, une robe, des chaises avec les couvertures en peau. Ouais. C'est pas des chaises, c'est des vraies chaises en cuir. Ouais. Il y avait chez eux des bols en forme de crâne. Il y avait même une ceinture faite en épaule de madame.
Oui.
C'était très intense.
Là. Oui, c'est tout trouvable, ça, sur Internet. Et l'affaire qui arrive avec Ed Gein, ce qui est un peu bizarre, tu sais, c'est que c'est un simple d'esprit.
Oui, oui, c'était un farmer.
Oui, mais tu sais, je veux dire, il y a plein de fermiers qui sont intelligents. Lui, oui, c'est vraiment l'idiot du village.
Le farmer de la place de Texas, pas éduqué, là.
C'est le dude que tu amènes ton chevreuil pour le débiter dans sa grange, puis une fois de temps en temps, il se tape un humain à débiter, là. Non, mais c'est ça pareil. Ça reste que c'est ça, là.
Ça fait penser au...
Au Canada, on a eu William Fife qui était de même.
Il y en avait eu un autre aussi qui avait tué beaucoup de prostituées.
Robert Picton. Oui, ouais. Lui, t'as William Fife puis Robert Picton. Il y en a un à Vancouver, l'autre à Montréal, je me souviens plus. Je pense que Picton était à Montréal.
Picton était en Ontario, non, right?
En tout cas, je dis ça à brûle pour point. Il me semble qu'il est à Montréal. Mais bref, il y en avait un de même qui dépassait le monde dans sa grange puis tout. Là. D'ailleurs, une des choses qui avait fait qu'il avait réussi à pogner, c'est qu'une des filles qui s'est poussée, là, genre, elle est allée voir la police.
À Vancouver, à Picton.
Picton à Vancouver. Donc, William Fife était à Montréal. Puis, il y a une des filles qui avait réussi à se pousser, dans le fond, puis que quand elle est allée faire son témoignage à la police, puis qu'elle comptait ça, t'sais, notamment la graisse qui est comme jaune, là, quand tu ouvres le monde, puis tout.
Ouais.
Les policiers étaient comme, OK, tu n'as pas le choix d'avoir soit étudié en médecine, soit de l'avoir vu pour vrai, pour savoir des détails comme ça. C'est comme ça qu'il l'avait pogné.
Dans le temps, oui. Parce
puis
que...
il disait que c'était le genre de Ed Gein québécois à cause que, justement, il éventrait le monde palanté dans son garage puis tout. Assez particulier. Ed Gein, de son vivant, était considéré comme l'épée du village. Là. Le monde était vraiment surpris quand ils ont vu que ben, c'était l'idiot du village qui était le tueur. Là.
Et tout qu'un à bord là-dessus.
Oui, ben oui. Ben,
oh, à peu près.
L'autre affaire aussi, c'est que Ed Gein, si je me rappelle bien, on est dans les années 50 à peu près.
Il était arrêté, je pense, dans les années 50, 60, 70. Là. Okay. Mais tu sais, ça a pris du temps. Là.
Mais tu sais, l'espèce de climax, tu sais, californien des tueurs en série dans les années 70, là, lui, il était là avant. Là.
OK, oui. Oui.
Et bref, inspiré de ce doux de simple d'esprit.
Donc, au niveau musical, la référence... En tout cas, on n'est pas dans les liens alambiqués pour cette semaine parce que c'était une chronique un peu comme on l'a dit tantôt en série.
Un petit bonbon d'Halloween.
Ben, exactement. Un petit sac surprise.
Yeah.
Oh. J'ai sorti une chanson.
Tout va bien.
Quoi?
Tant qu'il n'y a pas de petit tir Sainte-Catherine, tout va bien.
Des kisses.
Ouais, des kisses.
Exactement.
Et donc, c'est quoi l'extrait que tu es allé nous chercher avec ça?
J'ai sorti un extrait du groupe Benighted qui vient de France. C'est du gros death, là, c'est pas mon genre tant que ça. Ils ont sorti l'album Necrobreed en 2017. Et la chanson parle évidemment de Leatherface.
Et ça, ben, ça nous amène à ton troisième fait.
Comment faire une chronique d'Halloween sans parler, bien évidemment, de Jason Voorhees, la star du film Vendredi, la série de films Vendredi 13. Ouais. Alors, Vendredi 13, c'est 12 films. Le premier a été en 1980. La série Vendredi 13 était un peu une réponse à Halloween. Donc, les deux,
ça a comme un peu sorti en même temps. C'est vrai que les masques, ils ressemblent un peu. Je me rappelle quand j'étais jeune au club vidéo, ils crissaient les deux VHS, un à côté de l'autre, sa tablette.
Exactement.
Le masque blanc.
Et on reparlera de ce masque-là plus tard. Par contre, la lignée de Vendredi 13, comparément aux autres lignées de films que je vous ai parlé plus tard, c'est une seule ligne du temps.
OK.
Et là, pour les gens sur Internet, on voit vraiment la progression de Jason à travers les années. Donc, malgré que ce soit une seule ligne du temps, il y a plusieurs absurdités là-dedans, dont Jason X, qui est comme Jason Cryo, amené dans le futur. Donc là, ça
n'avait pas été... le monde n'avait pas aimé hein, quand ça a sorti.
Ça n'avait pas tant rapport. Puis il y avait aussi Jason Takes Manhattan. Donc, Jason était rendu à New York. Fait que tu sais, c'était très ordinaire. Il y a aussi eu Jason Goes to Hell. Donc, Jason était devenu comme une entité. Un scientifique mangeait son cœur, était possédé par Jason. Et là, ça dénaturait complètement l'histoire du petit gars.
Ouais,
ben si c'est quelque chose qui revient, c'est un leitmotiv, ça, là. Tu sais, le pauvre garçon, soit triste, soit traumatisé, soit handicapé, là, ou les trois.
Ou toutes ces réponses.
Ils vont venir en chanceuse.
C'est ça, oui.
Avec ça, il y a aussi, là.
Il y a aussi eu Freddy contre Jason, qui est une autre absurdité.
Ah oui, j'avais oublié ça. Sérieux. Oui, ça aurait jamais dû arriver, ça.
Qui était le combat entre Freddy et Jason, mais en connaissant Freddy œuvre dans les rêves des gens, mais Jason est un personnage dans le monde réel. Fait que tu sais, ça a comme chié, comme on dirait ici.
Ben, en partant, le concept est un peu alambiqué, mais comme trop alambiqué, là.
Ben, c'est ça.
Puis, quand on... là, même si ça reste un film fictif, là.
Mais les versos, c'est bien à la mode dans le temps.
Ouais, que ça, c'est comme la niaiserie de Batman, Superman.
Non, ça pourra pas.
En tant que fan de Batman, sérieux, je vais encore me trancher les veines avec un trombone rouillé.
Il y avait aussi Alien contre Predator, puis tu sais, plein d'affaires de même. Là.
Ah, c'est qu'Hollywood, sérieux, ils l'ont pas.
Ils ont de la misère à créer des nouvelles choses, tout simplement.
Ouais.
Des bonnes nouvelles choses en plus.
Peut-être
plus
parce que toutes les pédos se sont fait dénoncer.
Peut-être.
On te laisse aller.
Donc, pour revenir à Jason, Jason, il n'est pas dans le premier film. En fait, le premier film, on ne le voit pas. Parce que Jason, c'est un enfant qui a été, qui s'est noyé dans le lac du camp Crystal Lake. Et le premier film se passe vraiment au niveau de sa mère qui veut venger la mort de son fils.
Oui,
parce qu'il y a eu de la négligence des moniteurs. Donc, on voit vraiment sa mère et on ne voit jamais Jason.
Mm-hmm.
Le masque de hockey, tel qu'on le voit présentement à l'écran sur Facebook, apparaît seulement au troisième film. Donc, dans le film numéro 2, Jason est personnifié, mais il y a un sac de jute sur sa tête. Et le masque arrive vraiment dans une, si je me rappelle bien, c'est dans une étable où il trouve le masque puis il se le met sur la tête. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu iconique.
Écoute, le masque de jute, là, il me fait un petit peu penser à Sacrifice de Transylvanie.
Ouais.
Alors du coup, on salue Sacrifice avec sa jeans sur la tête.
On salue assurément. Mais sérieux, j'ai vu ça, c'était comme, on dirait Sacrifice, bordel.
Eh hey boy.
Oui.
Mais je salue, sérieux, je dis ça, là, je respecte énormément le travail de Sacrifice. C'est un dude qui est vraiment dans la scène depuis longtemps, qui a fait son nom, qui est crédible. Mais là, sérieux, tu sais, je vois la cagoule sur la tête, ça me fait penser aux jeans de Sacrifice.
100%. Et dans le film numéro 2, en fait, Jason, comme on disait, il n'était pas là. Et dans le 2, on voit qu'il s'est construit une espèce de petit shack en bois avec la tête de sa mère, parce que le 1 finit parce que sa mère est décapitée avec une machette, dont l'introduction de la machette qui est caractéristique de Jason. Et Jason a cet hôtel-là avec sa mère, son chandail et plusieurs autres corps autour de lui. Et Jason, oui, a sa machette, mais il tue avec n'importe quoi. Il tue avec ses mains, il tue avec des bonbons d'oxygène, il tue avec des harpons.
Ça, un peu comme Steven Seagal, il pogne tout cassé qu'il y a sur le bord.
C'est ça. Tout le monde qui s'approche de lui, il tue.
Ouais.
Et encore une fois, on le remarque dans les films, Jason a une attirance envers les gens qui ont des relations sexuelles dans les fermes un petit peu cachées.
Ouais. Ben, donc, les adolescents, tu sais, justement, qui correspondent au classique de...
Ouais.
Du camp Crystal Lake. Là.
Mm-hmm. En plein ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du sixième film, Jason devient un être un peu surhumain. Donc, il a une force surhumaine, il a des pouvoirs de régénération et il devient invulnérable. Parce qu'on le voit dans les films un peu précédents. Il se fait un peu knocker, tu sais, ça va pas bien, mais à partir du sixième film, là, il devient complètement invincible.
Still alive à tout moment.
Ouais.
Puis cette parcelle d'invincibilité-là se reflète un peu aussi dans Michael Myers qui se fait brûler, qui se fait tirer, qui se fait... Il tombe en bas des falaises et il ne meurt jamais. Par contre...
6 pieds 8, là, je sais pas trop. Ben, 6 pieds 3.
C'est ça. Michael mesure 6 pieds 8, ou quasiment 7 pieds, là. Fait que tu sais, c'est un peu une variante qui revient beaucoup dans les films d'horreur, cette invulnérabilité-là, parce que évidemment, on veut faire d'autres films. Et parce que les gens finissent par s'attacher au tueur.
Ouais.
Alors, au niveau musical.
Oh,
oui. C'est là que je me suis beaucoup amusé. Alors, pour la sortie de Jason 6, c'était une sortie en 1986. Ça pognait au bout. Alors, ça pognait au bout. Qui de mieux pour faire une chanson là-dessus que Alice Cooper, qui a fait la chanson thème du film? C'est sorti sur son album Constrictor, mais il y avait aussi un single qui s'appelait He's Back, The Man Behind the Mask. Alors, la pochette du single, on voit Alice avec une moitié de masque de hockey.
Ouais.
Et l'extrait est, ma foi, délicieux.
Mais l'album est bon, complet. Et là, je suis ultra vendu à Alice Cooper, fait que ça compte pas. Mais l'album est excellent. Et on s'en va entendre ton extrait de ce pas.
He's the man behind the mask.
Ah, les années 80, cette époque où les gens se sont dit « Hey, on a des samples de tous les instruments sur le clavier, pas besoin de musiciens.
» Oui, c'est bizarre.
Et quand, ça a donné ce que ça a donné. Mais l'album est quand même bon, là. C'est pas meilleur. Mais c'est ça, l'album est quand même bon.
C'est excellent. Moi.
Yes!
Alors voilà!
Hey.
Un gros merci encore une fois, PY, d'avoir été dispo pour nous.
Tellement,
et là, ben,
merci
ben, comme tu as dit pendant ta chronique, c'est un peu une chronique hors série, celle-là. Fait que nous autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et là, j'allais dire, on n'a pas besoin de te demander c'est quoi ton costume d'Halloween cette année.
Il est déjà là sur mon divan. Et j'ai même acheté la chienne Big Bill pour aller avec, v'là quelques moultes années.
Ah.
Je rentre encore dedans, donc pourquoi pas?
Ben écoute, garde-toi.
Hey.
Good. Un gros merci, PY. Nous autres, on s'en repasse dans une semaine une prochaine chronique des éphémérides alambiquées. Et sur ce, effectivement, on te souhaite
Et
c'était donc PY.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.